Bonsoir à toutes et à tous. RCF s'est ce soir installé au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris, pour la rencontre habituelle des mardis d'éthique publique consacrée ce soir à l'Ukraine sous le titre Ukraine, que veut Poutine? Certains doutaient il y a quelque temps que la Russie pouvait être une puissance agressive. Eh bien, les événements récents démentent ce jugement hâtif. Il suffit du reste de se rappeler l'histoire et, en particulier, si on l'a oublié, de demander aux Polonais de nous la raconter. Ce qui se passe dans l'est de l'Europe depuis une dizaine de jours nous sidère. Nous sidère et nous avons le sentiment et je pense qu'il est largement justifié d'assister à un tournant de l'histoire dont nous ne pouvons pas encore évaluer toutes les composantes. Et nous sommes probablement, j'ajouterai malheureusement, nous ne sommes qu'au début de ces événements dont déjà nous avons commençons à percevoir l'impact dramatique sur les populations et sur d'autres éléments de la société. Beaucoup de questions, un très grand nombre de questions nous viennent à l'esprit. Nous aimerions comprendre, et je pense que même les meilleurs experts ont du mal à comprendre ce qui se passe actuellement. Nous avons voulu ce soir l'illustrer par trois types d'intervention dans trois champs différents. Je vous présenterai dans quelques instants les intervenants. Premier champ de questions se situe dans le domaine religieux. Quelle est la place du facteur religieux dans cette guerre? Quel est le rôle imparti à l'orthodoxie moscovite dans cette vision du monde? Quelles sont les composantes de ce monde orthodoxe? Récemment, le patriarche de Moscou, Kirill, a appelé à ne pas donner aux puissances externes obscures et hostiles l'occasion de se moquer de nous et à tout faire pour préserver la paix entre nos peuples, en même temps que pour protéger notre patrie historique commune de toute action extérieure capable de détruire cette unité. Comme vous avez peut-être lu dans la presse, les interventions du patriarche de Moscou sont parmi les éléments les plus surprenants de ces événements récents. Ces questions doivent être posées alors que l'incertitude sur les fins et les moyens de Vladimir Poutine dans la guerre qu'il vient de déclencher, sont une source d'inquiétude croissante. Il y a toutefois une différence majeure avec d'autres manifestations antérieures de l'impérialisme russe. C'est la mobilisation, face à cette agression, de l'Europe et de l'Alliance Atlantique, toutes deux décrites il y a peu encore comme moribondes. Que s'est-il passé en Europe? Les sanctions décidées contre la Russie auront-elles des effets décisifs? L'indépendance d'un continent tout entier se joue-t-elle aujourd'hui en Ukraine, comme certains observateurs l'affirment? Sur ces différents versants, il y en aurait évidemment d'autres qui pourraient être ajoutés. Nous recevrons ce soir les éclairages de nos trois intervenants. La première à intervenir sera Cathy Rousselet, directrice de recherche à Sciences Po, au CERI, Centre de recherche international, spécialiste tout particulièrement de la religion ou des religions en Russie, qui a publié, je vous renvoie en particulier, un article dans Études en 2018 sur la religion au service de l'État russe. Sur le versant européen, nous recevons Sylvain Kahn, docteur en géographie, professeur agrégé d'histoire aussi à Sciences Po, et auteur d'une histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, paru au PUF l'année dernière. Et enfin, nous entendrons un témoignage d'une personne particulièrement bien placée pour en parler, M. Pierre Morel, ancien ambassadeur de France à Moscou, et qui fut pendant de nombreuses années le coordinateur du groupe de travail politique du processus OSCE de Minsk sur l'Ukraine. Trois interventions relativement courtes, mais qui seront enrichies par des questions et des débats. Sans plus attendre, je laisse la parole à Cathy Rousselet, que je remercie d'être parmi nous ce soir.
Merci François. Je voudrais commencer en disant que nous sommes effectivement tous dans la sidération. Les journalistes font un travail absolument remarquable de collecte de faits. Ils décrivent au mieux l'histoire en train de se faire, mais il est ma foi terriblement difficile aujourd'hui d'analyser ce qui se déroule sous nos yeux. Difficile parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'on travaille sur des pays dans lesquels on a fait nos recherches depuis de très nombreuses années. Parce qu'à l'heure surtout où nous parlons, des civils meurent sous les bombes. Et c'est aussi difficile parce que nous ne voyons pas toutes les logiques à l'œuvre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je voudrais parler de la question de la prévisibilité de cette guerre. Les uns parlent de folie, d'actes irrationnels de Vladimir Poutine. Les autres nous disent que tout cela était prévisible, que Vladimir Poutine fait ce qu'il dit, et il remonte le temps, il retrace parmi tous les chemins, à travers une relecture des discours, celui qui mène à la guerre. Le 9 janvier 2022, Gilles Andréani, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, publiait dans la revue en ligne Telos un article « Ukraine, la guerre annoncée de Vladimir Poutine ». Je vous conseille de lire l'article, tout y est. Et pourtant, cette guerre violente était-elle à ce point prévisible? J'écoutais tout à l'heure à Sciences Po des journalistes ukrainiens nous parlant d'Ukraine, l'un de Kiev, l'autre d'une petite ville plus à l'ouest. Ils disaient qu'ils se préparaient depuis très longtemps à la guerre, mais que jusqu'à la fin, jusqu'au 24 février, ils espéraient encore que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine. Et ces constats, ces deux constats, nous conduisent, à mon avis, à beaucoup d'humilité dans nos prises de parole. J'en viens maintenant à la question de la dimension religieuse de la guerre dont François m'a demandé de parler. Je vais essayer de donner quelques éclairages. Je commencerai en soulignant les intérêts convergents de Vladimir Poutine et des deux patriarches successifs, Alexis II jusqu'en 2009, puis Kirill. Vladimir Poutine a toujours voulu contrôler l'étranger proche de la Russie, cet étranger proche dont fait partie l'Ukraine. Et les deux patriarches, donc Alexis II puis Kirill, ont cherché, eux, à garder, voire à étendre, le territoire canonique de leur Église, qui était ébranlé par l'effondrement de l'Union soviétique et l'émergence, pardon, de nouveaux États-nations. L'Église orthodoxe russe, depuis 1991, insiste sur l'unité au-delà des frontières politiques, l'unité des chrétiens orthodoxes issus de la fameuse Russie. La Russie où le grand prince Vladimir a été baptisé en 988, on ne sait pas très bien où, à Kiev ou à Kherson ou ailleurs encore. Et Kirill n'a eu de cesse de vouloir accroître la puissance de son Église. Je pense que c'est une des caractéristiques essentielles de son patriarcat. Et on peut dire qu'avant la guerre, celle-ci était devenue largement une Église globale. Et c'était d'ailleurs très intéressant de voir les évolutions de cette Église commençait à penser son territoire de façon différente. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, donc une convergence d'intérêts de longue date. Et cette convergence, on la voit encore d'une autre façon. L'indépendance politique de l'Ukraine, elle a conduit à la quête d'indépendance religieuse. Et Poutine se bat contre l'indépendance politique de l'Ukraine, Kirill se bat contre l'indépendance religieuse de l'Ukraine. Je vais essayer de l'illustrer un petit peu. à côté de l'Église orthodoxe ukrainienne qui dépend de Moscou, se sont développées depuis le début des années 90 d'autres églises. D'autres églises qui sont donc orthodoxes toujours. C'est un peu compliqué comme paysage. Donc des églises orthodoxes qui se sont autoproclamées autocéphales, donc indépendantes de Moscou. Mais personne ne les reconnaissait à ce moment-là. D'autres églises orthodoxes ne les reconnaissaient pas. Et une partie même de l'Église orthodoxe ukrainienne avait demandé au patriarche de Moscou de lui accorder l'autocéphalie, ce qui lui a toujours été refusé. Après Maïdan, après les phénomènes d'affirmation de l'indépendance politique de l'Ukraine, à l'automne 2018 a été créée une Église orthodoxe d'Ukraine. Elle a un autre nom, Église orthodoxe d'Ukraine, qui est soutenue à l'époque par le président ukrainien, qui considère que effectivement cette Église, elle va aider à son pays à affirmer sa souveraineté politique. Et cette Église orthodoxe d'Ukraine a reçu le statut d'autocéphalie par le patriarcat de Constantinople. Et donc vous voyez, on a d'un côté le patriarcat de Moscou avec l'Église orthodoxe ukrainienne, et puis d'un autre le patriarcat de Constantinople avec cette Église orthodoxe d'Ukraine. Et ce conflit religieux a provoqué des bouleversements absolument majeurs au sein de la communion des Églises orthodoxes, et ça continue encore. Les unes se plaçant du côté de Moscou, les autres suivant Constantinople, et ce conflit, on le voit en Europe, mais on le voit maintenant également en Afrique, on pourrait éventuellement revenir sur ce point. La nouvelle Église orthodoxe d'Ukraine, dont je vous parle, qui est née en 2018, elle a vu le nombre de ses fidèles augmenter au détriment de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et de plus en plus, selon un sondage en novembre 2021, 24% des Ukrainiens et 39% de ceux qui se disaient orthodoxes appartenaient à l'Église orthodoxe d'Ukraine, patriarcat de Constantinople, alors qu'il n'y avait que 13% d'Ukrainiens et 21% d'orthodoxes qui appartenaient à l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou. Donc voyez, voilà ce paysage complexe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette Église orthodoxe ukrainienne a été considérée par les autorités ukrainiennes comme le bras droit de l'État russe, si vous voulez. Et donc, le pouvoir ukrainien a cherché à renommer cette église, et elle l'a renommée Église orthodoxe russe et non pas Église orthodoxe ukrainienne. Et ça, les hiérarques de cette église ont considéré qu'on faisait là acte de discrimination à leur égard. Si je vous dis ça, c'est que ce schisme, il est considéré comme partie intégrante du conflit politique. Le religieux, là, il est vraiment pleinement au cœur du conflit. Dans son allocution du 21 février, donc quelques jours avant d'entrer en Ukraine, Vladimir Poutine a mentionné parmi les griefs contre l'État ukrainien le soutien que cet État aurait apporté au schisme qui divise désormais le peuple ukrainien. Et il a évoqué les discriminations que subirait aujourd'hui l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou. Donc on retrouve là une même logique chez Vladimir Poutine et chez Kirill. Les deux se retrouvent dans une accusation aussi d'ingérence des États-Unis dans la vie politique et religieuse de l'Ukraine. Vladimir Poutine considère que l'Ukraine est soumise à l'influence des États-Unis, et Kirill considère que le schisme est largement, le schisme et la position du patriarche Bartholomé de Constantinople est liée à l'influence des États-Unis. Donc vous voyez donc deux imaginaires, hein, politiques et religieux, qui se rejoignent. Ça, c'est un point qui me paraît très important. Un autre point qui nous aidera peut-être à comprendre aussi ce qui se passe, c'est que cette église russe, donc en Russie, est dominée par des forces nationalistes et traditionnalistes. Je vais d'abord parler de Kirill, pour essayer de comprendre justement ce que François nous disait tout à l'heure. Déjà au début des années 2000, Kirill s'opposait dans plusieurs textes à ce qu'il appelait l'unipolarité du monde et à la globalisation des valeurs libérales. Et sa grande idée depuis les années 2000, ça n'a pas bougé, enfin ça a un petit peu évolué et c'est radicalisé, mais sa grande idée, c'est qu'il y a une cohabitation des civilisations Il s'inspire dans une certaine mesure, d'ailleurs, de la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. En 2007, il a soutenu la doctrine russe. C'est un texte qui a été élaboré par un groupe de penseurs conservateurs qui défendait une restauration de l'Empire. Et le chapitre 6, pour vous donner simplement une petite idée, le chapitre 6 de la troisième partie de ce texte, il porte sur la doctrine militaire nationale et on y lit notamment « L'objectif du nouvel empire russe est d'empêcher un monde unipolaire, entre parenthèses hégémonie américaine ou chinoise, de défendre son indépendance, de protéger ses sphères d'intérêt vital, au moins à l'intérieur des frontières de l'Union soviétique. » Et parmi les experts qui ont rédigé ce texte, et je répète, Kirill l'a soutenu, il a discuté dans le cadre d'une organisation religieuse dont je vous parlerai dans quelques minutes, bon, il l'a soutenu, donc parmi les experts qui ont contribué à ce texte, figurait Alexandre Borodaï, premier ministre de la République autoproclamée du Donetsk, du 16 mai au 7 août 2014. Donc ceci est très clair. Depuis le début des années 90, on voit se développer des imaginaires politico-religieux, mais au début plutôt politiques, mais peu à peu ils se sont teintés de religieux, des imaginaires de nature impérialiste et parfois avec une nostalgie tsariste. Et d'ailleurs, les premiers monarchistes, ce sont les premiers monarchistes de Russie, se sont retrouvés dans ces groupes. Et ces imaginaires, ils défendaient l'idée d'un monde russe. Un monde russe avec sa civilisation et un monde russe qui correspondait en fait à cet empire russe et essentiellement à ce territoire qui est composé de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie. Et ce monde russe, il est issu de la Russie et il peut être défini plus largement maintenant comme la sphère d'influence de la religion orthodoxe russe. Et Kirill, devenu patriarche en 2009, s'est mis à défendre ce monde russe. Il a toujours dit, lui, que ce n'était pas un projet politique. Il n'a pas cessé de promouvoir son approche civilisationnelle. Il a opposé ce monde russe à l'Occident déchristianisé et décadent. Et cette rhétorique donc d'un monde russe, d'une civilisation russe, d'une civilisation orthodoxe russe qui s'oppose à l'Occident, cette rhétorique, elle n'a cessé de se développer à partir du tournant conservateur de 2012. Et ce qui est aussi très important, c'est que Kirill avait sa propre définition du monde russe et de la civilisation russe, mais tous ces mouvements traditionnalistes, parfois très obscurantistes, qui existent dans l'Église, se sont aussi mis à réfléchir sur la civilisation russe, sur ce monde russe, en l'opposant toujours à l'Occident décadent, déchristianisé. Parallèlement à cette rhétorique du monde russe, se développe une rhétorique religieuse de nature eschatologique qui place la Sainte Russie, elle aussi issue de la Russie, dans l'histoire du salut. Et là, on voit aussi des courants messianiques qui se développent. En 2009, Kirill évoquait le peuple russe comme porteur de Dieu, baptisé à Kiev, nourri par la tradition d'une multitude de saints, un style de vie et des valeurs spirituelles. Et ce peuple porteur de Dieu était porteur de salut. Je vous parle donc ici essentiellement de Kirill. Vous allez me dire, l'Église, ce n'est pas seulement un homme. Mais l'Église, elle est dominée par le nationalisme, en particulier dans les monastères, mais pas uniquement. Et on a observé le développement de courants fondamentalistes dès les années 2000, des courants fondamentalistes qui se sont opposés au numéro d'immatriculation fiscale, qui pouvait comprendre le chiffre de l'Antéchrist, au passeport, et puis au moment de la pandémie, au vaccin. Et ceux-là, ils sont particulièrement opposés à l'Occident. Curieusement d'ailleurs, ils se retrouvent avec une certaine droite américaine contre le monde sécularisé décadent. Et jusqu'à la guerre, on pouvait se dire que voilà, ces mouvements fondamentalistes américains et ces courants fondamentalistes russes, ils se rejoignaient. Là, avec la guerre, ils sont peut-être face à face. Quels sont les ingrédients maintenant de l'alliance de l'Église et de l'État en Russie, maintenant que je vous ai posé un petit peu les différentes composantes de cette Église? Une grande partie des imaginaires politico-religieux mettent en avant un État fort dont l'Église est le bras droit, et ils réécrivent l'histoire en inscrivant l'Église au cœur de la construction de l'État. Je vous donne un seul exemple, je ne sais pas si certains de vous sont déjà allés en Russie et à Moscou. Il y a un parc historique qui s'appelle « Russie en mon histoire », qu'on trouve à Moscou, mais dans près de, enfin, plus de 20 villes de Russie, qui a été élaboré par le métropolite Tikhon Chevkounov, qui est très écouté par Poutine, et qui est d'ailleurs en concurrence avec Kirill. Et ce parc historique, il met justement en scène l'alliance de l'État et de l'Église à travers l'histoire, et les écoliers russes sont maintenant invités à aller visiter ce parc historique. Si vous voulez, c'est vraiment un lieu de construction de l'idéologie russe actuelle. Donc il faut vraiment faire attention à ces questions mémorielles et à cette question de l'histoire, de la réécriture de l'histoire, mais beaucoup de choses ont été dites sur cette question. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe une organisation qui existe depuis 1993, elle aussi mise en place par Kirill, qui était à ce moment-là le responsable du département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou. Cette organisation, c'est le Conseil mondial du peuple russe. Et c'est une organisation qui se réunit tous les ans et en fait qui comprend des élites politiques, militaires, religieuses, scientifiques, culturelles. Enfin, les élites se retrouvent là. Et en fait, moi je pense que, si vous voulez, c'est là que se trouve le lieu de circulation de toutes ces idées dont je vous ai parlé. Un autre point aussi qu'il faut mettre en avant, je crois, pour comprendre ce qui se passe. Je vous ai parlé donc des fondamentalistes, hein, de ces groupes conservateurs. C'est difficile de donner le nom. On peut aussi dire qu'ils sont traditionnalistes parce qu'ils insistent beaucoup sur la tradition de l'Église orthodoxe. Ces groupes-là, ils ont infiltré l'armée et les autres ministères de force. Donc on a des relations très étroites entre l'armée et certains courants très conservateurs de l'Église orthodoxe. Plus difficile à documenter, il y a des structures religieuses qui sont soutenues, en partie des monastères, qui sont soutenues par une économie de nature mafieuse, qui elle aussi est rendue possible par des relations avec les ministères de force. Et puis, ma foi, il y a une culture de la guerre, hein, parmi ces traditionnalistes fondamentalistes. Il ne faut pas oublier, je vous parlais du nationalisme, hein, tout à l'heure, dans les monastères, il ne faut pas oublier que bon nombre de moines sont anciens combattants. Et ça, je m'en suis rendu compte, parce que quand j'ai fait des enquêtes sur des clubs militaro-orthodoxes, et là, j'ai vu effectivement que ces clubs étaient dirigés par des moines qui étaient d'anciens combattants. C'est pas toute l'Église, hein. C'est pas toute l'Église, mais ce sont les plus visibles et ce sont ceux qui sont les plus présents dans le politique aujourd'hui. Alors quelles sont les conséquences, et ce sera le dernier point, François, quelles sont les conséquences de la guerre sur les églises? Alors là, il y a eu de très beaux articles dans La Croix. Je ne sais pas si j'imagine que vous lisez ce journal. En tout cas, il y a eu quelques très bons articles là-dessus. Je vais aller relativement vite. En Ukraine, bon, il y a toujours, vous avez compris, hein, il y a deux églises orthodoxes. L'église orthodoxe d'Ukraine, qui dépend de Constantinople, elle défend la patrie absolument sans réserve. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagit l'église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou. Ce qui est très intéressant à repérer, c'est que le 22 février, donc avant même la guerre, dans la ligne d'ailleurs de ce qu'il disait déjà après l'annexion de la Crimée, le métropolite Onufre, donc qui dirige cette église, a déclaré qu'il défendrait toujours, que son Église défendrait toujours l'intégrité territoriale du pays. Et le 24 février, il s'adresse à Poutine, il reprend ses propos et il qualifie la guerre de répétition du péché de Caïn tuant son frère. Et il rappelle que son Église sera toujours avec son peuple et qu'elle continuera à défendre la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine. Le 28 février, le synode de cette Église a exhorté Kirill à se prononcer contre la guerre et a demandé à Vladimir Poutine de faire cesser les combats. Le 3 mars, c'est l'ensemble d'un deuxième plus grand monastère d'Ukraine, la Lore de Potchaïf, qui demande à Kirill, qui le supplie, supplier le pouvoir russe d'arrêter la guerre. Et enfin, devant le constat que le patriarche Kirill n'a pas explicitement condamné la guerre, et j'espère que je vous ai un petit peu expliqué pourquoi il ne l'a pas condamné de façon explicite, de nombreux prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne, y compris à la Lore des Grottes de Kiev, celui-là est le plus grand monastère d'Ukraine, de nombreux prêtres ont décidé de ne plus citer Kirill dans les prières. Plus de 15 éparchies n'ont pas hésité non plus à le déclarer ouvertement, ne plus en faire mention. Parce qu'une chose est de ne plus mentionner Kirill, et une autre est de l'affirmer publiquement. Le patriarcat de Moscou a accusé ces éparchies de prendre des positions schismatiques. Il est difficile de savoir combien parmi ces religieux ont déjà quitté l'Église orthodoxe ukrainienne pour l'Église orthodoxe d'Ukraine. Mais il y a en fait des sources qui attestent que au moins une partie de ceux qui ne citent plus Kirill dans leurs prières souhaitent rester dans leur Église. Et ils expriment leur soutien au métropolite Onufre. Donc ils se désolidarisent complètement de Moscou, de Kirill, mais ils restent dans leur Église. Tout ça pour dire aussi, c'est compliqué, mais je pense qu'on ne change pas d'Église comme on change de parti politique. Donc c'est pour ça que c'est quand même très bon, c'est pour ça que c'est compliqué pour ces prêtres de changer. Dans plusieurs éparchies, dont celle de Lviv, des prêtres ont demandé que soit accordée l'autocéphalie à l'Église orthodoxe ukrainienne. Et des voix disent que ces prêtres ne sont pas assez courageux et qu'ils devraient rejoindre l'Église orthodoxe d'Ukraine. Mais attention, ce qui est très intéressant aussi, c'est que dès 2014, donc dès l'annexion de la Crimée, moins de 30% des prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne ont une position pro-russe. Donc vous voyez, c'est vraiment compliqué. Que se passe-t-il en Russie ? En Russie, des évêques ont appelé à un élan de solidarité envers les populations qui fuient la guerre, mais il devient extrêmement dangereux pour les prêtres d'appeler à la paix. Et une pétition contre la guerre a commencé à circuler le 1er mars, mais selon une source bien informée, ses signataires, dont certains prêtres très connus, sont rappelés à l'ordre par leurs évêques. Parce que ce qu'il ne faut pas non plus, ce qu'il faut que j'ajoute aussi, c'est que Kirill a profondément modifié l'organisation de son Église et il a instauré une verticale du pouvoir ecclésiastique, comme Vladimir Poutine a instauré une verticale du pouvoir politique. Et d'ailleurs, Kirill avait utilisé le même terme que Poutine. Des fidèles expriment leur désarroi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de fidèles expriment leur désarroi. D'autres continuent à obéir à leur directeur spirituel. Et tout dépend à ce moment-là de la position du directeur spirituel. Et ça nous renvoie à une autre question qui est celle du mouvement anti-guerre en Russie aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. J'espère que j'ai été assez claire. Mais je pense que dans le contexte actuel, il nous faut être les plus nuancés possibles dans nos analyses, même si ce qu'on observe est absolument tragique.
Merci, Cathy Rousset, de cette première entrée en matière. C'est un aspect important, évidemment, de la situation présente. Nous sommes toujours au Centre Sèvres, au cœur du mardi d'éthique publique consacré ce soir à l'Ukraine. Et notre soirée se poursuit avec nos trois invités, Pierre Morel, Cathy Rousselet et Sylvain Kahn. C'est à ce dernier que je passe la parole.
Bonsoir. Voilà, là ça devrait marcher. Bonsoir à tous, bonsoir François V, bonsoir Cathy, bonsoir Pierre Morel. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un sujet bien entendu très grave. Et bon, moi je vais essayer de parler, de répondre un petit peu à la question qui m'a été posée par Jean-Luc Poutier, à savoir qu'est-ce que cette guerre fait à l'Europe? Alors, je crois que ça a été dit par François Hevet tout de suite dans son propos liminaire. La première chose que cette guerre fait à l'Europe, c'est qu'elle la mobilise. Voilà. Il y a un mouvement qu'on va qualifier de protéiforme, de mobilisation, tout à fait patent. Alors, selon le point de vue que chacun. De chacun, on pourra dire un mouvement impressionnant, on pourra dire un mouvement, une mobilisation impressionnante, une mobilisation étonnante. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les sociétés civiles des différents pays européens se mobilisent. Et au sein des sociétés civiles, un très grand nombre de types d'acteurs. Hein, par hasard, je suis tombé. Sur le journal très local d'un canton de Saône-et-Loire, où la mairie d'un bourg se mobilisait, et on sait que c'est comme ça dans toute la France et que c'est comme ça dans tous les pays d'Europe. La mobilisation est tout à fait patente pour l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, si on en croit le HCR de l'ONU, on en est déjà, hier en tous les cas, on en était déjà 1 700 000 Ukrainiens qui fuient leur pays en guerre et qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne, principalement en Pologne et en Roumanie, mais ils arrivent aussi en Moldavie. Puis, je détaille pas ce que vous avez vu comme moi dans les différents médias. Il y a des flux très importants de réfugiés en car, en train, en voiture, à pied. Bon, c'est un aspect des choses. Donc le don de matériel, de nourriture, de vêtements, en est un autre. Il y a des manifestations, à plus ou moins grande échelle, très, très mobilisatrices, très nombreuses dans des pays comme l'Allemagne, par exemple. Bon, il y a donc tout un tas de manifestations de la part de ce qu'on appelle les sociétés civiles et les différents acteurs, je l'ai dit, les mairies, les églises, bien entendu, les différentes communautés, hein, qui se mobilisent pour, appelons ça, leurs frères, leurs sœurs, des communautés équivalentes en Ukraine. Et deuxième point dans cette mobilisation, ce qui est tout à fait patent, c'est de voir que les pouvoirs publics ou les dirigeants se mobilisent aussi. Alors moi, j'ai la faiblesse de penser, mais c'est juste une intuition, que cette mobilisation des dirigeants et des appareils étatiques est en fait à l'unisson de la mobilisation des opinions publiques et des sociétés civiles. Et c'est un des charmes des démocraties que de voir les gouvernants en général être, on va dire, dans le sillage de leurs opinions publiques. Alors bien souvent, quand on constate cela, c'est pour reprocher aux dirigeants d'être versatiles. Mais en l'occurrence, si cette intuition se vérifie, et pour ça il faudra faire un peu de recherche dans les années qui viennent, ça serait plutôt un bon point pour le caractère démocratique des régimes démocratiques, n'est-ce pas? Voilà. Et cette mobilisation, comme vous le savez, elle emprunte le même type de registre, sauf que c'est avec des politiques publiques. Donc, dans les différents États, dans les différentes régions, s'agissant des États fédéraux, et dans l'UE à 27, il y a une demi-douzaine d'États fédéraux, mais également à l'échelle de l'Union européenne, puisque il y a quelque chose. Jean-Marc Ferry, dont certains d'entre vous connaissent les écrits, Jean-Marc Ferry parle pour qualifier l'Union européenne de méta-État. Hein, bon. Donc il y a aussi une sorte d'organisation étatique et d'entité territoriale et étatique européenne qui s'appelle l'Union européenne, puis qu'on peut même élargir aux pays associés de l'espace économique européen et des pays candidats, etc. Il y a une mobilisation certaine des crédits, et qui sont des crédits importants, des programmes de politique publique dans le domaine humanitaire et de fil en aiguille, on le sait aujourd'hui, dans le domaine de l'acheminement de matériel militaire et de matériel militaire qui est un matériel de combat et qui est même maintenant un matériel de combat de type létal. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça, ça se fait dans le cadre, encore une fois, des politiques publiques de type régalienne, qui sont le don ou l'exportation de matériel de guerre. Et aujourd'hui, on en est même à se demander, il va y avoir jeudi et vendredi un sommet des chefs d'État et de gouvernement, donc un Conseil européen à Versailles, donc en France, puisque c'est organisé par la présidence française du Conseil de l'Union européenne, pour savoir s'il ne faut pas carrément envoyer des avions de chasse, puisque ça n'a échappé à personne. Dès le début du conflit, le deuxième et le troisième jour, l'armée de l'air russe a cloué sur place l'armée de l'air ukrainienne, qui de toute façon n'était pas le point fort de l'armée ukrainienne, on va le dire. Bon. Et aujourd'hui, un certain nombre de villes sont pilonnées par l'armée russe, à la fois par l'infanterie et à la fois par l'armée de l'air, à l'image de ce que les Russes avaient fait avec un grand professionnalisme, on va dire ça comme ça, à Alep et en Syrie tout au long de l'année 2015. Et donc, évidemment, les Ukrainiens ont demandé aux Européens et à l'OTAN d'interdire à l'armée de l'air russe le survol de l'Ukraine, ce que l'OTAN refuse, pour ne pas entrer en guerre directement avec la Russie. Mais en réaction à cela, ou en réponse à cela, les Européens s'interrogent sur le fait de livrer des avions de chasse. Il faudra probablement, si vous me permettez cette familiarité, il faudra probablement livrer les pilotes avec. Si c'était le cas, ça va être débattu vendredi, si c'était le cas, ça serait vraiment un pas très important qualitativement dans la mobilisation. Hein, voilà. Cette mobilisation, vous savez, elle prend aussi la forme du fait qu'après un très court débat qui a duré 3-4 jours, et notamment parce que 8 pays membres de l'Union européenne l'avaient demandé explicitement au moyen d'une lettre, l'Union européenne vient d'accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine, mais également à la Géorgie, à la Moldavie. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu, disons, la vie de l'Union européenne, hein, entre le moment où on accorde le statut de candidat à un pays et le moment où il rentre, dans le meilleur des cas, ça peut prendre 2-3 ans, ça c'est pour la Finlande, l'Autriche ou la Suède. Et puis dans certains cas, ça peut prendre 15 ans, hein, quasiment 15 ans, comme par exemple pour la Roumanie. Hein, donc accorder le statut de pays candidat, c'est le témoignage d'une mobilisation certaine. Bon, hein, ça ne veut pas dire que l'Ukraine sera demain dans l'UE, si demain il y a encore une Ukraine indépendante ou s'il y a une Ukraine tout court. Hein, bon. Voilà, donc il y a ça. Je ne détaille pas davantage car le temps passe. C'est la première chose. Ce que fait cette guerre à l'UE, c'est qu'elle la mobilise de façon à la fois, qu'on pourrait dire, très dense et qu'on pourrait dire, me semble-t-il, entre guillemets, complète. C'est-à-dire que c'est vraiment sur tous les territoires, dans tous les secteurs de l'opinion publique, dans tous les États membres. Vous voyez, on cherche, disons, des voix dissonantes et on n'en trouve pas. Il y en a sûrement, mais... Hein. La deuxième chose, me semble-t-il, que cette agression militaire de la Russie à l'Ukraine fait à l'Europe, c'est qu'elle lui fait peur. Et bon, après, chacun individuellement fait avec ce qu'il ressent. Mais on pourrait dire que collectivement, c'est très clair, cette invasion militaire fait peur à l'Europe et aux Européens. Alors là, il faut juste avoir en tête 2-3 données de géographie extrêmement élémentaire. Il y a avec l'Ukraine près de 1300 km de frontières communes avec l'UE, hein, en particulier là, en Pologne et en Roumanie, mais aussi un petit peu en Slovaquie et en Hongrie, si je ne me trompe pas. Je parle sous le contrôle de Pierre Morel. Voilà, donc ça veut dire que la guerre, hein, c'est pas comme la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, c'était très, très prenant, mais la guerre en Syrie, c'était à la fois proche et loin. Là, c'est vraiment tout proche, quoi. Voilà. Et l'agresseur, comme chacun sait, est la première puissance nucléaire du monde. Voilà. Et puis cet agresseur, donc il y a près de 2300 km, très exactement, je parle de mémoire, 2257 km de frontières communes, dont un peu plus de 1200 avec la Finlande, donc entre l'UE et la Russie. Voilà. Bon, hein, donc l'agresseur de l'Ukraine est à nos portes. Voilà. Et puis en plus... au moment de la Coupe du Monde de football en 2018, on trouvait ça très folklorique ou pittoresque. Mais le territoire de l'agresseur est même dans le territoire de l'Union européenne, puisqu'il y a la petite enclave de Kaliningrad où, pour la Coupe du Monde de foot de 2018, l'État russe avait créé de toutes pièces un magnifique stade dans lequel il y a eu 4 matchs du premier tour. Kaliningrad, très connu pour être l'ancienne Königsberg, la ville de Caen, bon, tout ça c'est très sympathique, et très noble, mais aujourd'hui, ben voilà, c'est une enclave de 460 000 habitants. Enfin, pour les Russes, c'est une exclave, pour nous, c'est une enclave, sur laquelle, depuis 2015 ou 2014, le pouvoir russe a trouvé bon d'installer un certain nombre de SS-26, c'est-à-dire des missiles à courte portée sur lesquels on peut installer des têtes nucléaires qui mettent Berlin ou Varsovie à 7 minutes d'une destruction nucléaire. Bon, alors vous me direz, de toute façon, s'agissant d'une éventuelle guerre nucléaire, et moi je ne suis pas un spécialiste de stratégie, j'essaye déjà de comprendre comment fonctionne l'Union européenne, de toute manière que les missiles éventuels soient envoyés de Saint-Pétersbourg ou de la région de Moscou ou de Kaliningrad, bon, dans un cas ça met 7 minutes, dans l'autre cas ça en met 18, hein, c'est pas très différent, mais voilà. Donc il y a ça. Donc ça fait peur, et ça m'a rappelé cette phrase dans un discours un peu célèbre pour qui s'intéresse à l'histoire de la construction européenne, prononcé par Paul-Henri Spaak, le grand ministre des Affaires étrangères belge des années 50, considéré comme l'un des pères de l'Europe, qui, à la tribune de l'ONU en 1951, s'est adressé, je crois que c'est 51, dans les années 50 en tous les cas, s'est adressé à la tribune de l'ONU spécifiquement aux soviétiques pour leur dire « Vous nous faites peur, on a peur de vous, nous le monde libre, on a peur de vous, et c'est pour ça qu'on fait l'OTAN, et c'est pour ça qu'on fait la communauté économique européenne. » Donc, la troisième chose que, en conséquence de la deuxième, et comme en formalisation de la première, la troisième chose que cette guerre fait à l'Europe, c'est qu'elle cristallise un sentiment d'appartenance européen. Alors, on peut appeler ça un patriotisme européen, bon, dit comme ça, ça paraît un peu tiré par les cheveux, parce qu'on est tellement habitué depuis 150 ans et depuis qu'on va au CP, à l'école primaire, que le patriotisme soit associé à une patrie. Or, l'Europe n'est pas une patrie. Ça paraît un peu osé ou tiré par les cheveux de dire que peut-être que cette guerre cristallise un patriotisme européen. Mais après tout, c'est pas parce que depuis quelques décennies, sur une durée séculaire, le patriotisme semble être un phénomène attaché ou qui dénote de l'existence des États-nations que le patriotisme ne pourrait pas s'appliquer à autre chose que des États-nations. Voilà. Hein. Bon. Et il me semble que on pourrait presque se demander si cette guerre ne cristallise pas également le sentiment qu'il existe. Encore une fois, je cite Jean-Marc Ferry, non pas un État européen, mais un méta-État européen. Parce que, si vous voulez, objectivement, bon, là je prends les critères des sciences sociales, hein, quand vous avez une entité para-étatique et administrative qui va jusqu'à envoyer du matériel de guerre de type, non seulement de défense, mais de type d'attaque létale, qui envisage d'envoyer des avions de chasse, qui fait ça un an après avoir acheté en commun des vaccins en très très grande quantité pour être sûr que dans toute cette entité territoriale mutualisée, tout le monde puisse avoir accès aux vaccins. Et ceci venant quelques mois après le fait que cette entité territoriale et para-étatique ou méta-étatique a émis des bons du Trésor. En général, les bons du Trésor, c'est émis par des États. Pour financer un endettement commun, sachant que en amont de tout ça, on avait déjà une monnaie commune. Au bout d'un moment, bon, bah, disons, quand on fait soit de la science politique, soit de l'histoire, ça finit quand même par s'appeler des attributs étatiques, tout ça. Et puis quand on se rappelle que finalement la forme État-nation de l'État est quelque chose d'assez court finalement à l'échelle de l'histoire des Européens en particulier. On peut se demander si finalement cette espèce de demande sociale adressée aux Européens, à l'Europe, aux gouvernants, aux dirigeants, lorsqu'ils se réunissent ensemble à Bruxelles et qu'ils font des choses ensemble à Bruxelles pour ensuite se les répartir au niveau national, mais peu importe, cette demande sociale qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une étaticité à l'échelle européenne, bah, la guerre ne le crée pas, mais l'accélère ou permet aux gens d'en prendre conscience. Alors nous, on a un mot pour parler de ça, nous, c'est-à-dire la communauté des européanistes, hein, c'est-à-dire les chercheurs et les profs qui, en sciences sociales, ont pour objet la construction européenne et l'Europe, on appelle ça l'européanisation. Voilà. Alors l'européanisation, on étudie ça, on peut la décliner dans des tas de domaines, mais là, elle s'accélère, si vous voulez. Hein. Très clairement, cette guerre, cette menace, cette peur et en même temps ce sentiment de solidarité très fort qui s'exprime un peu partout en Europe pour les Ukrainiens, parce qu'en fait on a l'impression, pour les gens qui se sentent concernés, que c'est une part de nous-mêmes qu'on agresse. Voilà, après tout, les Ukrainiens, depuis 2014, voire depuis la Révolution rouge de 2004, ils demandaient tout simplement à devenir des Européens. D'ailleurs, à avoir une démocratie, à ce que le pluralisme soit garanti et respecté, à avoir des débats, un espace public où on valorise la critique, le débat, la culture, la liberté individuelle, la liberté de croire, la tolérance, et où on fait tout ça en proscrivant la violence institutionnalisée et la violence militaire. Et voilà, pour régler les conflits, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans conflit, comme l'explique très bien Pierre Rosanvallon, mais on les métabolise dans l'espace public, et puis on met la violence militaire et la violence nationaliste, à l'écart. Or, ce que fait Poutine en ce moment, avec son appareil d'État, avec son armée, et sa base sociale, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la Russie, là il faut vraiment interroger Cathy, c'est qu'il dit aux Européens, vous croyez que tout ça fonctionne et que ça peut croître et embellir et que ça peut attirer des pays qui, il y a quelques années encore, étaient dans l'orbite russe et soviétique, et ben vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude et je vais vous le montrer en écrasant militairement par la violence brute ce type d'évolution dans des pays dont je considère qu'ils doivent rester dans la sphère, appelons ça culturel russe, du point de vue de Poutine. Hein. Moi, je ne vais pas me prononcer sur qu'est-ce que c'est que la culture russe. Et tant qu'à faire, tremblez, Européens, et sachez à quel point vos valeurs et votre modèle politique est fragile. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour l'anéantir, le faire passer sous les chars, hein, comme en 56, comme en 68, comme en 80 en Pologne. Voilà. C'est ça le message de Poutine, qui nous est adressé aux Européens. Hein. Et face à cela, les Européens disent on ne va pas se laisser faire. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point on ne va pas se laisser faire. Voilà. Bon. Donc, les Européens prennent conscience d'eux-mêmes. Ils voient qu'ils forment une société européenne. Bon, quand je dis nous, il n'y a pas besoin, il n'y a pas que les académies qui le savent. Hein. Il y a plein de gens qui s'en rendent compte, il suffit d'avoir envie de le voir. Et il y a plein de gens qui ont envie de le voir. Il existe une société européenne, hein, et cette société européenne, là, est en train peut-être de franchir une étape supplémentaire dans sa cristallisation. Et il est clair qu'en face, il y a un État très grand, assez puissant, bien que faible, bien que, avec des grandes vulnérabilités, mais nous aussi, on se rend compte qu'on a beaucoup de vulnérabilités à cette occasion, qui nous dit que il ne faudrait pas qu'on croie qu'on va pouvoir faire tranquillement, en paix, comme on aime depuis 6 décennies environ. D'ailleurs, on a eu le prix Nobel de la paix, nous les Européens, qu'il ne faudrait pas qu'on imagine qu'on peut faire ce qu'on veut dans cet espace européen. Et voilà. Donc du coup, ce que fait cette guerre aux Européens, c'est à la fois qu'elle nous rend plus forts au sens où on est conscient de ce qu'on est, et en même temps qu'elle nous fait prendre conscience de nos fragilités ou de nos vulnérabilités. Parce que, je terminerai là-dessus, contrairement à ce que beaucoup de commentaires, certains commentateurs disent, cette guerre n'est pas du tout mondiale, elle est vraiment très locale. Et donc, ceux qui vont au-delà des Ukrainiens, qui eux, évidemment, en souffrent de manière très tragique, et je crains que ça aille très très loin, malheureusement, hein, et que l'Ukraine soit à l'image de la Syrie, comme les Ukrainiens résistent avec héroïsme et bravoure, ça va très très mal se passer pour eux, dès lors qu'on n'intervient pas pour les aider, ou pour se battre à leur côté, ceux qui ensuite seront les plus affectés, c'est clairement les Européens. hein, pour tout un tas de raisons économiques, sociales, politiques, géographiques. Voilà. Hein, bon, donc, on est rentré dans un moment, malheureusement, très compliqué. Voilà.
Voilà, merci Sylvain Kahn de cet apport vu d'un Européen. Donc, nous sommes toujours au Centre Sèvres, au cœur du mardi d'éthique publique consacré ce soir à l'Ukraine. Et je laisse la parole à notre dernier intervenant pour quelques brèves remarques avant de terminer cette soirée. Monsieur Pierre Moret, donc je rappelle qu'il est ancien ambassadeur à Moscou et surtout qu'il a présidé donc coordonné le groupe de travail politique des accords de Minsk sur l'Ukraine, accords de Minsk qui sont malheureusement caduques. Voilà, merci de votre contribution.
Ça résiste. C'est bon. Merci mon père, et merci Cathy, merci Sukan. Ce sont quelques remarques, car la contrainte de temps, nous avons été prévenus. Et donc, je me contenterai de quelques remarques pour entrer dans le sujet avant des échanges, parce que je crois qu'il faut échanger. Je partirai du constat que nous vivrons une tragédie européenne. Je crois qu'on ne peut avoir aucun doute là-dessus, qui sera longue et rude. Je crois aussi qu'on peut constater qu'elle concerne tous les aspects de l'existence. Elle a toutes les dimensions. On peut se placer à tous les niveaux. On retrouve déjà tous les impacts en deux semaines. Et donc, c'est une tragédie qui a une dimension existentielle dans toutes les dimensions de l'existence et pour nous tous. Je crois que si on veut prendre la mesure de l'événement, il faut partir de là. Et évidemment, beaucoup de choses se développent à partir de là. Je partirai simplement de deux éléments à propos des analyses de Cathy Rousselet d'abord. Je voudrais rappeler, puisque je suis entré dans ce conflit en juin 2014, ça fait 7 ans et demi, dans la première mission qui s'est transformée en 2015, l'année suivante, à la fin de la guerre, et pour dire que la religion, au début, n'était pas vraiment là. Ça n'était pas le clivage. Et déjà, Maïdan, moi, le souvenir que j'ai de Maïdan, ce sont les prêtres qui, entre les barricades et les berkouts, les redoutables forces de l'ordre, s'avançaient en portant la croix, pour essayer d'être encore des facteurs de paix. Parce qu'ils savaient qu'au fond, ils avaient des fidèles de part et d'autre dans les différentes dénominations. Et puis, avec l'alourdissement d'un conflit, comme toujours, les choses commencent à évoluer. C'est ma première remarque. La deuxième sur ce point, c'est que, au fond, la religion a beaucoup bougé dans l'espace post-soviétique depuis 30 ans. Il se trouve que mon véritable engagement, c'est l'Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions. Et pour marquer ces 30 ans, nous avons essayé d'étudier, de nous focaliser sur quelques évolutions tout à fait caractéristiques. La Russie, bien sûr, dans sa quelle identité, mais aussi l'évolution de l'islam azéri, l'évolution de l'église arménienne, l'Asie centrale, ou encore les différentes composantes de l'Ukraine. Vous pouvez le consulter sur notre site contact@observatoirepharos.com. Et il y en a une centaine de pages qui justement essaient de mettre en valeur ces dimensions religieuses un peu oubliées. Mais ça a beaucoup bougé, et pas seulement en Russie. Et donc, on voit effectivement en Russie, dans un état idéologique défaillant, je ne reviens pas sur la fin du régime soviétique, eh bien il a fallu reconstruire une raison d'être, une raison de croire, une raison d'être ensemble. Et évidemment, c'est sur la dimension politique et religieuse, historique, qui est fondatrice à bien des égards, que ce mouvement s'est renforcé en absorbant toute une série de choses qui viennent et qu'a évoqué Cathy et qui remontent au XIXe siècle. La littérature est considérable avec aussi sa dimension de fantasme. Du côté des remarques du professeur Kahn, je crois qu'on a vu à travers ce conflit se durcir deux logiques. J'ai travaillé avant à l'Union européenne et qui étaient au fond deux logiques qui se sont cherchées et puis qui se sont séparées. Logique de coopération, de réconciliation, d'échange, qui a été quand même dominante, et il faut voir les problèmes que nous avons dans les échanges franco-russes, tout simplement, pour mesurer l'interpénétration de nos économies. Je passe donc, au fond, l'Union européenne, elle a rempli sa fonction aussi dans ce domaine de façon considérable, et l'énergie en est un autre exemple. Donc, il y a eu une coopération, il y a eu de l'échange. Mais, petit à petit, au fond, dans ce mouvement que la Russie a essayé de reprendre sur elle-même, c'est la logique de l'identité, de la puissance, et qui a commencé à s'affirmer. Et puis, peu à peu, celle de la revanche. Et j'ai envie de dire, dans sa dimension passionnelle, plus loin encore, celle de la vengeance. C'est-à-dire que il y a un coupable de la fin et de cette tragédie qu'a été la fin de l'URSS, et le coupable ne peut pas être la Russie, donc c'est le monde d'en face. Je simplifie. Mais ce sont des ressorts psychologiques profonds que l'on peut étudier à tous les niveaux dans les comportements, et je crois qu'il y a eu là quelque chose qui petit à petit s'est noué, s'est renforcé. Je ne commente pas sur l'évolution interne du système, mais le fait est que cette, petit à petit, on a vu se durcir de façon progressive une agressivité qui s'est traduite par les budgets, comme par les comportements et par les propos publics et les discours. En face, du côté de l'Union européenne, logique de dialogue, d'échange, de coopération, c'est sa nature même, c'est sa prospérité, et de coopération, et petit à petit aussi d'affirmation. Et là, il y a une différence par rapport à la logique des États-Unis. L'Union européenne n'a pas mené la bataille de la guerre froide en premier rang, elle n'a pas considéré qu'elle était victorieuse. Simplement, petit à petit, elle a eu le sentiment qu'enfin, le monde qu'elle espérait advenait, en accueillant de nouveaux membres et en étant peu à peu une puissance normative porteuse de droits pour le reste du monde. Et donc, entre la logique de revanche et même de vengeance et une approche normative pacifique et qui se croit pacifiante, eh bien, le moment de l'incompréhension et de la sidération, c'est celui où nous sommes actuellement dans une sorte de grande révision. Alors, pour terminer, je voudrais noter deux ou trois choses. Premièrement, ce que j'appellerais les mots qui tuent. Il y a des termes qui ont commencé à émerger et qu'on a noté en passant en disant c'est de la propagande. Le terme de fascisme, le terme de putsch, le terme de nazi, de génocide, je l'ai entendu dans ces négociations, y compris auparavant, au début de la guerre en Géorgie, où j'étais également en mission en 2008. On a parlé de génocide en Ossétie du Sud. L'Ossétie du Sud, bon, je ne commente pas, mais c'est à peu près comme Château-Queyras au fond des Hautes-Alpes. Ou les Alpes de Haute-Provence. Donc, on est dans des. Et avec des villages attaqués, bombardés, oui. Mais le terme de génocide déjà montre des dérapages et des machines qui se mettent en route pour justifier des opérations de grande envergure. Et maintenant, évidemment, tout ceci s'est déployé. Et on voit se développer des fictions légitimantes qui évolue au fur et à mesure, et on en voit sortir tout le temps, parce que la guerre de l'information est envahissante. Mais encore une fois, ce sont d'abord les mots qui tuent. Et le manque de vigilance que l'on a dans ce registre est quelque chose d'ancien, et la mise en alerte, on peut retrouver le Rwanda. Les radios Mille Collines avaient déjà, en quelque sorte, annoncé les tragédies qui ont suivi. Donc, les mots comptent, et la vigilance vis-à-vis de ces composantes un peu immatérielles prépare très souvent des drames majeurs. Ensuite, les accords de Minsk, je ne vais pas les commenter maintenant, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que j'ai vécu en petit format pendant 7 ans, avec des centaines d'heures de négociations, des centaines de sessions, en petit format, ce qui se déploie aujourd'hui. On a essayé de contenir le conflit, on avait quand même établi une forme de dialogue, on avait quand même réduit la violence, on veillait sur le sort d'une population sur 500 km de ligne de contact, 800 000 personnes sous des tirs, des menaces, des grenades, des enfants qui explosent sur des mines pendant 7 ans. Et puis, il y a un moment où la pression, la confrontation a débordé. Mais dire ces accords ne servaient à rien, étaient tout simplement de la complaisance. Non, ils étaient tant bien que mal conçu pour sortir d'une guerre qui avait déjà fait 10 000 morts, qui en a fait 4 000 de plus depuis, c'est vous dire que ça n'a jamais été quasiment un cessez-le-feu, mais au moins, on essayait de permettre l'échange entre les parties, l'échange qui maintenant n'est plus là, sauf quelquefois au plus haut niveau. Donc, une régression profonde, profonde, et la perte des réflexes qui étaient un modèle européen depuis les accords d'Helsinki 1975 pendant la guerre. Quand il y a un conflit, il y a un dialogue. Certes, il y a des confrontations. C'est la norme européenne. En Syrie, il y avait un conflit, il n'y a pas de dialogue. Au Yémen, il y a un conflit, il n'y a pas de dialogue. Et voilà la menace qui actuellement nous retrouvons en Europe. Est-ce que ce conflit en Union européenne, sur le continent européen va quand même permettre de conserver un minimum de dialogue d'une façon ou d'une autre, ou bien alors on ne se parle plus et donc on monte vers les extrêmes. Enfin, on l'a vu dans un rapport de force terrible dans les autres conflits dans l'Est du monde. Quelle évolution actuellement ? Évidemment, on passe d'une guerre qui a été locale dans une guerre qui prend des dimensions totales, avec une dimension d'encerclement, une dimension d'écrasement des villes, et donc effectivement, dans ce registre-là, les références qui ont été citées, on peut les évoquer. On peut penser à la Yougoslavie, mais c'est déjà pire que la Yougoslavie à certains égards, et donc on ne voit pas encore le point d'aboutissement ou de pause. Il faut le rechercher inlassablement. Quelle perspective ? On voit très bien qu'il faudra travailler à réécrire un nouvel ordre qui ne soit pas par la force, qui empêche la montée aux extrêmes. On en revient toujours à cette logique d'un cadre de travail. Et même si l'on est dans une tragédie actuellement, il faut penser à la tragédie. En tout cas, il est clair déjà que ce conflit est un révélateur, aussi bien dans nos existences quotidiennes que dans l'évolution de la construction européenne, que dans l'évolution du continent, et nous ne faisons que découvrir les différentes composantes de ce changement d'époque. Merci.
Merci beaucoup à Pierre Morel. Donc cette intervention termine notre mardi éthique publique sur RCF au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. Je ne vais pas faire de conclusion, mais je relève peut-être pour terminer cette soirée que, de fait, nous sommes dans un conflit non pas de civilisation, comme le pense le patriarche Kirill, mais de logique, entre une logique de dialogue, d'ouverture, qui passe par la confrontation, et une logique de fermeture, de clôture, de vengeance, de ressentiment. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de donner davantage corps à cette logique de dialogue. Voilà, merci de votre écoute. Voilà, maintenant nous ne sommes plus à la radio, nous avons toute liberté de parole. Donc nous allons prendre des questions, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, peut-être par rapport aux interventions et aussi plus largement sur d'autres questions. L'habitude c'est de prendre au moins 3 questions à la fois, donc alors je vois des mains qui se lèvent, je laisse Franck, alors Franck va prendre le micro. Alors, levez vos mains. Voilà, on va commencer par mon côté gauche. Allez-y.
Bonsoir. Donc, ma question va s'adresser, je pense, à Cathy Rousselet. Il y a la cathédrale ukrainienne de Paris et j'ai vu qu'elle était gréco-catholique. Alors, est-ce que c'est encore une église autocéphale ou je ne sais quoi ? Enfin, voilà, juste c'est une petite question très anecdotique, mais voilà, qui va m'éclairer. Merci. Voilà,
merci. Alors, une autre question. Allez, il y a une main qui se lève au début, ici. Voilà, puis il y en a ensuite dans le fond.
Bonsoir. Est-ce que vous auriez pu nous parler un peu plus de l'accord de Minsk, qui nous aiderait peut-être à mieux comprendre l'intervention de Poutine ?
Vous pouvez éventuellement baisser un peu votre masque.
Oui. Ah, baisser, oui. Est-ce que vous pourriez nous parler davantage de l'accord de Minsk qui a certainement joué pour l'intervention de Poutine. Vous avez parlé donc de 14 000 morts, hein, dont 500 enfants du côté du Donbass. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus, effectivement, pourquoi cet accord de Minsk n'a pas été respecté qui a certainement joué, effectivement, dans l'intervention de Poutine. Voilà.
Alors, troisième question, on va repartir par là-bas.
Oui, Sylvain Kahn nous a dit que l'Europe réagissait, se mobilisait de manière complète ou sinon unanime. Mais moi, j'entends autour de moi des chrétiens qui ne condamnent pas la guerre, qui ne condamnent pas Poutine, qui semblent justifier la guerre. Que peut-on dire de l'écho de Poutine dans certains courants chrétiens en France et en Europe?
Voilà, merci pour ces trois questions. Alors peut-être la première sur l'Église catholique, rapidement, à Cathy. Alors,
ça tombe très bien que vous me posiez la question. En fait, je me suis concentrée sur les orthodoxies pour vous dire comment le paysage évoluait. Mais en fait, en Ukraine, il n'y a pas que ces deux églises orthodoxes. D'ailleurs, il y en a une troisième encore, mais minuscule. On va pas en parler plus que ça. Et puis, il y a cette église gréco-catholique ukrainienne, qui est une église catholique de rite oriental, donc rattachée à Rome, mais de rite oriental, qui est née en 1596, dans le moment de l'Union de Brest. Et en fait, c'est très intéressant aussi sur le plan politique, parce que l'Église orthodoxe russe n'a jamais reconnu cette Église gréco-catholique, considérait que c'était de l'uniatisme, c'était le cheval de Troie des catholiques sur le territoire canonique de l'Église orthodoxe. Et en fait, chaque fois que l'Ukraine s'est retrouvée sous l'obédience russe, cette Église, elle a été supprimée. Donc, je vous passe les détails sur l'histoire. Et en fait, elle a été supprimée dernière fois en 1946, lors d'un concile qui a été trafiqué complètement. Elle a été intégrée à l'Église orthodoxe russe. Et en fait, ces gréco-catholiques ont continué. Alors, certains sont passés à l'orthodoxie russe parce qu'en fait, si vous voulez, il y a le même rite, d'accord ? Il y avait le même rite dans l'église orthodoxe et dans cette église catholique. Mais un certain nombre d'entre eux sont entrés dans la clandestinité. C'est une église qui a une forte composante nationaliste, qui avait, parce que là, elle est réapparue, elle a été officialisée de nouveau dans les années, fin des années 80, 1989, si je me souviens bien. Et voilà, elle était moins radicale que dans la clandestinité, mais enfin quand même. Et c'est une église qui est très présente dans la partie ouest de l'Ukraine. Et s'agissant de sa dimension nationale, voire nationaliste, que je voulais dire aussi, c'est que donc partie de l'Ukraine s'est retrouvée dans l'Empire austro-hongrois, et à ce moment-là, cette église, elle a pu se développer, d'accord, au XIXe siècle, début du XXe. Et le métropolite Cheptinsky est un des grands penseurs ukrainiens, et voilà, il a contribué à développer le sentiment national ukrainien. Donc voilà, merci beaucoup pour votre question, parce que c'est une église qui est importante, et vous savez que dans les relations entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, pendant très longtemps, la question de l'existence des églises gréco-catholiques, en particulier l'église gréco-catholique ukrainienne, a été vraiment un problème majeur, un obstacle majeur au rapprochement de nos églises. Donc voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les protestants. Il y a beaucoup de protestants aussi en Ukraine, beaucoup plus d'ailleurs, et beaucoup plus qu'en Russie. Il y a un pluralisme religieux très reconnu, en fait, en Ukraine, contrairement à ce qu'on observe en Russie. Il y a des musulmans également, les musulmans de Crimée. J'ai pas développé tout ça, mais ce sont des mouvements qui des organisations religieuses et qui comptent bien sûr dans le paysage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Je me tourne vers Pierre Morel pour les accords de Minsk.
S'il faut un petit rappel historique très très bref, les principales étapes. Donc Maïdan débouche sur cette nuit terrible, près de 80 morts. Ensuite, un compromis passé rapidement, sans préparation substantielle, entre les différents protagonistes, mais en réalité, effondrement du système de pouvoir, toute la protection présidentielle du président Yanukovych disparaît du palais et il s'enfuit, si bien que l'Assemblée, la Rada, se réunit, vote, élit un président intérimaire avant de préparer les élections. Et entre-temps, se déroule l'invasion de l'Ukraine, de la Crimée, pardon, par les Hommes Verts, puis, dans un premier temps, annexion de la Crimée, et ensuite, en mars, poussée du Donbass, soutenue par les forces spéciales du côté russe. Et début de ce qu'on appelle, en Ukraine, l'opération antiterroriste pour rétablir l'autorité sur le territoire. Très vite, très tôt, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui est installée à Vienne, qui est issue des accords d'Helsinki, installe des observateurs pour séparer les différentes forces dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Et petit à petit, un début de contact s'établit. L'OSCE a une longue habitude dans ce domaine, dans les différents conflits européens, notamment en Yougoslavie, mais ailleurs, pour essayer d'empêcher le face-à-face direct quand les tensions s'accroissent. Et un début de négociation s'amorce, un début de rencontre entre différentes parties, là encore soutenu par l'OSCE. Et devant la menace de guerre en mai, et malgré l'échec des tentatives de dialogue, au même moment, le président de la République française, le président Hollande, profite des cérémonies du 6 juin 2014, en souvenir de 1944, pour réunir le président Poutine, le président Porochenko, qui vient de remplacer le président intérimaire, la chancelière Angela Merkel, et lui-même, ce qui donne ce qu'on appelle le format Normandie. Parce qu'on se dit pourquoi Normandie. C'est de là, de ce déjeuner, qu'apparaît, que sort ce cadre de travail qui va rester entre chefs d'État par des contacts, d'abord pour essayer de garder cela un peu sous contrôle. L'OTAN est récusée, l'OSCE fait son travail, mais c'est une organisation qui avant tout agit sur le terrain. L'Union européenne perd toute possibilité de dialogue à ce moment-là après la crise de Maïdan, et donc c'est par là que se maintient un canal de discussion et de négociation. Et en même temps se met en place sur le terrain une petite structure de dialogue pour organiser un groupe de contact. Ce groupe de contact arrive à un premier accord de Minsk 1 à la fin de la guerre. Il y a déjà 10 000 morts, avec des offensives de part et d'autre considérables, qui donnent à peu près le périmètre de ce qu'était le Donbass jusqu'au déclenchement de cette guerre. Et donc, c'est dans ce cadre que l'accord Minsk 1 est passé le 5 septembre 2014. Mais les conflits reprennent, s'aggravent à nouveau, et donc il faut une deuxième étape où là, les chefs d'État se réunissent eux-mêmes à Minsk, dans une nuit de négociation qui dure 13 heures, et là, fixent, consolide, complète l'accord du 5 septembre qui n'a pas marché. Et à ce moment-là, on décide d'amplifier la mission d'observation et de mettre en place des groupes de travail pour régler le cadre général de règlement qui a été esquissé par les chefs. La présence sur le terrain est considérable, sur ces 500 km et à l'intérieur des deux parties. En présence, vous avez 1300 personnes qui sont des observateurs sans armes et qui circulent tout le temps, pour essayer de noter les faits et du coup calmer les comportements et accumuler en même temps une information considérable que nous, négociateurs, nous recevons tous les jours pour suivre les choses et essayer de contribuer à la vie quotidienne des gens, groupes humanitaires, aux échanges économiques, parce que le gaz et l'eau circulent, c'est une ligne totalement arbitraire, assurer la sécurité évidemment avec des points de passage pour les personnes, parce que les familles sont divisées, les champs sont d'un côté, la ferme est de l'autre, et enfin essayer de construire un dialogue politique entre des gens qui s'injurient et qui seraient de fascistes, de nazis, de terroristes et j'en passe. Et donc, voilà ce sont les accords de Minsk qui prévoient le recul des forces, y compris des forces russes soi-disant militaires en vacances qui sont sur le terrain, et de part et d'autre, dégager des zones de sécurité et des points de passage, et engager des réformes politiques et permettre le rétablissement d'élections légitimes reconnues internationalement dans le Donbass, qui a été prise en main par ces forces armées protestant contre l'évolution qui s'est passée à Kiev. Et donc, à partir de ce moment-là, s'engage cette négociation où on essaie d'avancer pas à pas sous l'encouragement et la direction du format Normandie. Donc on a un système à deux étages, quand ça bloque, quand c'est difficile, dans le cadre de Minsk, avec tous les 13 points de l'accord, eh bien on remonte vers les chefs, les présidents et la chancelière, où souvent ça bloque, et puis quelquefois, un élément se dégage pour amorcer un cessez-le-feu qui dure un temps, qui dure le temps des moissons, parce que quand même tout le monde doit aller au champ, ou bien qui permet de régler le gaz. Il n'y a plus encore un accord de paiement entre quelques banques que ce soit. L'argent circule avec des sacs et évidemment, tout ça est très précaire, etc., etc. Voilà le propre de l'accord de Minsk pendant ces 6 ans laborieux, avec de temps en temps des perspectives. Je dois dire que c'était évidemment désespérant, parce qu'on tourne en rond, et notamment sur le terrain politique. Mes collègues dans les autres groupes de travail pouvaient se dire, bon bah, au moins j'ai renouvelé l'approvisionnement en eau et en gaz, au moins j'ai pu faciliter les paiements des pensions, au moins j'ai pu libérer des prisonniers, au moins j'ai pu sauvegarder des points de passage où les gens ne sont pas menacés. Sur le plan politique, c'était l'échange sans fin d'arguments, avec évidemment un blocage des deux parties. Là où un certain espoir s'est amorcé, c'est lors du sommet qui s'est tenu à Paris, à l'Élysée, en 2019, à l'initiative du président de la République. Vous vous souvenez, avant, pour préparer cela, le président Poutine avait été invité à Brécançon. Et à ce moment-là, je peux parler quand même avec un peu d'expérience, c'est un sommet qui a duré 9 heures, entre des bilatéraux, des séances à 4, où ils étaient vraiment autour de la table. Ce n'étaient pas les grands forums, ils étaient là, en contact, et c'était rude, entre le président Poutine et le président Zelensky, qui avait été élu 6 mois avant, qui avait fait un son de tentative et d'ouverture, la chancelière et le président. Et à la fin des fins, en travaillant sur les textes, ils avaient commencé à 3h de l'après-midi, à minuit, on est sorti avec un texte qui fixait à peu près le travail sur l'échange des prisonniers, sur le cessez-le-feu, sur le travail politique et sur la perspective d'organiser des élections pour que la légitimité démocratique se rétablisse dans une zone autoproclamée république en dehors de toute référence en quoi que ce soit. Mais les choses ont brusquement tourné dans les mois qui ont suivi. Ça reste un des éléments sur lesquels on peut s'interroger. C'était qu'à partir de ce moment-là, très vite, la Russie déclare que, en fait, elle n'est pas concernée. C'est un conflit strictement interne. C'est une guerre civile entre Ukrainiens. Donc, c'est à eux de le régler et à eux seulement. Et Minsk, c'est là pour superviser, mais à la fin des fins, il faut que les rebelles, les séparatistes, les représentants autoproclamés et les responsables ukrainiens décident entre eux. C'est leur affaire. Et donc c'est leur faute si ça ne marche pas. Et évidemment, la Russie met tout son poids dans le soutien des républiques autoproclamées. Et évidemment, à partir de ce moment-là, on constate un durcissement de plus en plus net jusqu'à l'évolution de ces dernières années. Mais le cadre était là, on est arrivé à un cessez-le-feu. Le premier vrai cessez-le-feu que vous avez eu dans cette région du Donbass sur 450 km, il a eu lieu en juillet-août 2020. Un jour sans aucun tir sur 400 km, ou à peu près, 2-3 jours, à partir de toutes ces observations. C'est dire que la lourdeur de cette situation a été terrible. Il m'a beaucoup impressionné parce que l'aspect humanitaire a été extrêmement lourd. Les échanges de prisonniers, l'échange des corps, les disparus, la recherche des disparus. Au Caucase, on avait avancé, c'était un conflit plus limité, beaucoup plus vite. Là, ça a traîné et on était encore inlassablement avec ces éléments et une population qui en paye le prix, encore une fois, environ 800 000 personnes. Voilà, les accords de Minsk, ça a été la sauvegarde pour éviter la montée aux extrêmes. Et puis, il y a un moment où, pour un certain nombre de raisons, grand débat, eh bien, la thèse de l'argument selon lequel ce n'est pas un conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce que répétait Kiev, c'est un conflit entre des fidèles à l'ancien ordre ukrainien et à ce nouvel ordre fascistes, néo-nazis, etc., tout simplement, ce paravent a éclaté. Et je veux dire, pour terminer là-dessus, que négocier pendant 6 ans, 7 ans, où il est impossible de dire en séance que les Russes sont partis au conflit, parce qu'il n'y avait aucune force russe, tout ça a été simplement une révolte spontanée et légitime de représentants du Donbass menacés dans leur existence, c'est une des négociations les plus dures qu'on puisse imaginer, puisque par définition, en séance, ce qui est noir est supposé être blanc. Donc voilà le climat dans lequel il a fallu travailler tant bien que mal, sauvegarder encore une fois jusqu'au moment où le système a éclaté par la montée à l'échelon supérieur de force et puis de violence et de guerre.
Voilà, Cathy, peut-être quelques mots sur les chrétiens pour Poutine.
En fait, ces chrétiens pro-Poutine, on les observe depuis assez longtemps. Ce sont des chrétiens qui considèrent, qui, à mon avis, ont une vision fantasmée de la Russie, une Russie orthodoxe. Une Russie où les valeurs dites traditionnelles sont défendues par l'État poutinien, et ce sont des chrétiens qui considèrent que ces valeurs dites traditionnelles sont les valeurs sur lesquelles on devrait vivre, et qui pensent que l'Occident est décadent, l'Occident est sécularisé, et la Russie aujourd'hui serait le lieu où la foi pourrait être vécue pleinement, et où la morale chrétienne serait respectée. Et quand je vous dis que c'est une Russie fantasmée, et ça, dites-le autour de vous, c'est notre devoir maintenant de nous engager tous les uns et les autres. Je suis désolée, je sors peut-être un peu de du cadre scientifique, mais c'est pas grave. Je crois que le contexte permet. Je crois qu'il faut vraiment expliquer aux gens que la Russie, elle est plus sécularisée que chez nous, que l'Église orthodoxe russe n'a strictement aucun poids sur la vie des gens. Il y a vraiment une très forte sécularisation, d'accord ? Les gens se disent appartenir à l'Église, enfin se disent orthodoxes et se disent russes, donc orthodoxes. Mais pas à l'Église, hein. Au moins à l'Église que nous. Donc ça, je reprends, je suis d'accord avec ce que disait Pierre Morel. C'est une orthodoxie idéologisée qu'on trouve en Russie. C'est vrai que Vladimir Poutine a besoin de créer un ciment patriotique, et la religion orthodoxe et les fameux nationalistes orthodoxes dont je vous parlais, servent ce ciment. Hein. Mais c'est pas ça la religion. Enfin, il me semble pas. Donc, vraiment, voilà, c'est ça les chrétiens pro-Poutine, à mon avis.
Merci. On peut prendre une dernière série. Je suis désolé, mais Sylvain Kahn, nous quitter à moins 10. Donc, nous devons interrompre notre soirée 5 minutes plus tard qu'il était prévu. Ça va être à 45, mais vu l'importance du sujet, on peut dépasser un petit peu. Mais voilà. Donc, peut-être deux questions. Alors, si on aurait évidemment des centaines. Ici, puis le vert.
Oui, vous dites, et ça paraît très juste, qu'effectivement, cette guerre renforce pour l'instant l'Union européenne et gomme des différences. Alors, d'une part, est-ce que ce sera durable? Et d'autre part, est-ce qu'on ne peut pas en dire autant pour l'Ukraine, dans la mesure où, par exemple, quelqu'un comme Poroshenko a pris position pour son pays et contre Poutine? Merci.
Merci. Alors, laisse à Franck, là.
J'ai une question un petit peu basique qui me taraudait depuis tout à l'heure, mais vous avez répondu indirectement. Je voulais savoir quelle était la part donc de Russes pratiquants en Russie, de Russes pratiquants en Russie, de l'Église chrétienne orthodoxe, Et puis, quelle est cette proportion en Ukraine?
Ça, je ne sais pas.
Merci. Peut-être éventuellement une troisième, puisque deuxième question sera courte. Oui, juste devant.
Moi, j'ai des collègues ukrainiens, des amis russes, et pour certains, c'est difficile parce qu'ils ont la famille, les familles mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des Ukrainiens et des Russes qui sont de part et d'autre. Et puis, j'étais quand même assez surpris. Alors, sur les sanctions économiques, pas de problème, mais une espèce de rejet de la culture russe, alors qu'il y a quand même des trésors sur la musique, sur la littérature. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas basculé? Enfin, voilà, il faut garder des liens de solidarité entre les peuples. Et pour moi, ça me pose question, quoi, ce durcissement qui n'est pas simplement... je suis tout à fait contre ce qui se passe, et ça me révolte, mais on est peut-être excessif quand on entend qu'il y a des gens russes, des Russes qui vivent en France qui sont menacés de mort. Je me dis, c'est quand même un peu bizarre, quoi.
Merci. Oui. Alors, peut-être sur le renforcement de l'UE, peut-être Sylvain Kahn, vous ne serez pas frustré dans les réponses.
Pas d'inquiétude. Je ne suis pas du tout frustré. Au contraire. La question que vous posez, évidemment, elle est un petit peu consubstantielle à la construction européenne. C'est-à-dire que je crois pouvoir dire, sans provoquer trop de contestations, que c'est un des sports favoris des commentateurs, et y compris des très bons commentateurs dans l'espace médiatique, que de s'alarmer d'une possible désunion européenne au moindre indice, si petit et si fragile soit-il. Voilà, hein. Alors moi, par rapport à ça, j'ai une image qui vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les images, elle a évidemment ses limites. Dans un pays démocratique, par exemple la France, lorsqu'on constate des clivages politiques tout à fait prégnants, d'accord, prenons par exemple le second tour de l'élection présidentielle de 2017, eh bien, dans ces cas-là, on loue le caractère extrêmement vif de la vie politique française, et il y a un stéréotype très courant, et comme dans tout stéréotype, il y a toujours quelque chose d'un peu vrai, même si dans tout stéréotype, il y a évidemment une mythification, on explique que la France est un grand pays politique et que c'est pour ça qu'il y a si régulièrement des débats, des grèves, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de l'identité française et la France reste la France. Bon, là, j'ai pris l'exemple français, mais bien entendu, c'est un petit peu ce qui se dit dans chaque État membre de l'UE. Voilà. Alors, s'agissant de l'Union européenne, par contre, quand il y a des débats, soit au Conseil européen, donc chef d'État et de gouvernement, soit au Conseil de l'Union européenne, donc Conseil des ministres, pour aller vite, soit au Parlement européen, voire même quand il y a un pays qui veut sortir de l'Union européenne. Alors, au passage, je signale qu'un pays qui veut sortir de l'Union européenne, à la différence de la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, des sorties d'une entité territoriale, d'une fédération, ça s'est très bien passé. Hein. On n'a pas envoyé la police, ni l'armée, on n'a pas remis en cause le résultat du référendum. On a même tenu la main des Britanniques qui se sont pris les pieds dans le tapis de manière absolument incroyable, voire même assez comique, pendant 5 ans dans leurs négociations avec l'UE. Vous voyez donc... Bon, mais alors, par contre, le fait qu'il y ait, selon les sujets politiques, selon les débats, selon les crises, selon tout simplement les politiques publiques qu'on veut mettre en œuvre, l'idée qu'il puisse y avoir... une minorité et une majorité, s'agissant de l'Union européenne, alors ça n'effleure jamais, ou à peu près jamais, l'esprit des commentateurs, en tous les cas en France. Voilà. Donc, ça, c'est ma réponse générale, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que ça n'a rien d'extraordinaire qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler un consensus en Europe sur une question aussi grave et aussi importante. Et par ailleurs, quand il y a des désaccords en Europe, voilà, c'est l'expression des désaccords dans un ensemble qui partage une culture politique qui, dans l'ensemble, est une culture politique du débat, de la délibération et de la démocratie. Alors maintenant, est-ce que ce qui apparaît en ce moment, et vous avez raison de dire que c'est en ce moment, comme une unanimité, et l'intervention précédente a eu raison de dire tout à fait que cette unanimité n'est pas totale. Moi, j'ai dit complète, je n'ai pas dit totale. Et en effet, si l'Europe est une société qui met en avant le pluralisme et la délibération, bien entendu, quand on dit qu'il y a un sentiment majoritaire ou complet, il ne peut jamais être total par définition. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que ça peut être durable? J'ai envie de dire, ça va un petit peu dépendre de la durée du conflit, de la teneur des menaces, de la capacité que peuvent avoir les Européens. Moi, une fois, j'ai eu l'occasion de dire, il y a peut-être un patriotisme européen qui est en train de se créer. Ne va-t-on pas aller jusqu'à soutenir militairement les Ukrainiens d'une manière ou d'une autre? Et quelqu'un m'a dit, oui, on nous a déjà fait le coup en nous parlant, en nous disant qu'on n'allait pas mourir pour Danzig en 39, si je ne m'abuse, et que donc à partir de là, il ne fallait pas du tout imaginer que ce qui se passait en ce moment allait durer. Je n'ai pas la réponse. Voilà, malheureusement, je ne l'ai pas dans le marc de café. Mais voilà, si jamais à un moment donné, le conflit déborde sur le territoire européen, un bombardement, vous savez, avec ce qu'on appelle la guerre hybride, en réalité, il y a déjà des éléments de conflictualité tout à fait significatif entre l'UE et la Russie depuis au moins 2014. Hein. La violation régulière de l'espace aérien, de l'espace maritime, de l'espace cyber, de tous les pays de l'UE qui sont riverains de la Baltique, peut-être pas l'Allemagne, mais quoique, voilà, ça fait partie, si j'ose dire, du quotidien de l'UE depuis au moins 2014. L'ambassadeur Morel en parlera mieux que moi. Donc, oui, ça peut se retourner, mais ça peut aussi se renforcer. Je ne sais pas. Voilà.
Merci, Cathy, alors, sur oui, le alors, coût de pratique.
Alors oui, 3-5% de pratiquants en Russie, ceux qui vont régulièrement à la liturgie, qui vont communier, voilà, donc c'est vraiment moins de 5%. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Ukraine. Je sais que la pratique est plus élevée, ça je le sais, mais je ne peux pas vous donner les deux chiffres. J'ai pas regardé là, ça, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais ce que je sais, c'est que il y a plus de pratiquants en Ukraine. Ça c'est certain et de traditionnellement. Et par rapport à la Russie, la pratique religieuse tend même à baisser encore. Dire il y a le patriarche Kirill par ailleurs était une des personnalités à laquelle on faisait confiance il y a voilà peut-être dans les années 2000. Maintenant c'est plus le cas après l'affaire Pussy Riot et après cette compréhension qu'il y a vraiment une alliance du pouvoir et de l'Église. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis il y a une Russie fantasmée vraiment, enfin. Alors, s'agissant de la russophobie, madame, là, je trouve que c'est très important que vous posiez cette question. Dans ma communauté, enfin, moi, je suis slavisante, d'accord? Je suis slavisante. J'ai commencé à travailler sur la Russie il y a très longtemps. Enfin, je suis allée en Russie, j'avais 14 ans. Enfin, c'était l'URSS à ce moment-là. Enfin, bon, pour moi, voilà. Et on est nombreux à voilà avoir cet attachement à cette culture russe, à cette voilà, on a des amis là-bas. Il y a beaucoup de parmi la communauté des slavisants, des universitaires slavisants, il y a des gens qui sont de famille russe, qui ont émigré après la révolution. Bon, donc voilà, on a tous d'une façon ou d'une autre un attachement très fort à ce pays. Les premières pétitions qu'on a faites, c'était pour soutenir les réfugiés, pour soutenir nos collègues ukrainiens, et puis pour dire qu'on accueillait les Ukrainiens, on tenait vraiment à accueillir les Ukrainiens dans nos universités, dans nos centres de recherche, voilà. Et puis non, ça suffit pas, hein, parce que nos collègues russes. En fait, eux, ils vont pas tomber sous les bombes, mais eux, ils vont, dès qu'ils vont prononcer un mot de travers, ils vont être envoyés en prison, et on le voit déjà maintenant. Hein. Ce que disait un de mes collègues, c'est qu'on ne revient pas à l'Union soviétique des années 70-80, on revient à l'Union soviétique de quelques années auparavant. Hein. Donc eux, ils sont en péril, et c'est vrai que nos collègues russes, nous on voit, hein, ils veulent partir, hein. Ils savent que s'ils restent, et puis de toute façon, de ceux qui manifestent contre la guerre, ils sont arrêtés. Une doyenne d'une fac de l'université européenne de Saint-Pétersbourg qui a été arrêtée parce qu'elle était une jeune faisait une manif. C'est plutôt les jeunes qui manifestent. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait tout pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils obtiennent les visas. Ça, je ne connais pas trop ce que fait le ministère des Affaires étrangères. En tout cas, je sais qu'ils se démènent pour aider. Et puis là, il y a une déclaration qui va sans doute être publiée bientôt, où on dit qu'on soutient bien sûr très fortement nos collègues ukrainiens, mais qu'on soutient aussi nos collègues russes et biélorusses, il ne faut pas les oublier non plus. Et que voilà, on est très solidaires. Et donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Mais vous avez raison qu'il y a des tensions. C'est-à-dire que même dans ma communauté, je vois des gens qui disent « Mais on défend les Ukrainiens, les Russes, qui se débrouillent. » De toute façon, certains ne se rendent pas compte du contexte politique qui fait que de toute façon, toute parole d'opposition est muselée tout de suite. On ne peut rien faire. Donc, y a ça, effectivement, il y a des tensions de ce type-là. Exemple pour illustrer ce que vous disiez, je parle avec un jeune chercheur russe hier, qui me dit oui, en fait, on est en train de terminer notre article, mais les revues, elles ne veulent pas prendre des articles des Russes. Donc ça, il va falloir ça, tout simplement, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc, aujourd'hui, l'urgent, c'est de soutenir nos collègues ukrainiens, nos collègues russes et biélorusses qui souffrent de façon différente. Mais là, voilà, ça, c'est la première chose. Faire qu'on puisse mettre les gens en sécurité le mieux possible. Deux, moi, en ce qui me concerne, je veillerai toujours à ce qu'il n'y ait pas une discrimination à l'égard de nos collègues russes, par exemple pour publier une revue. Ce qu'il faut, c'est que l'article soit de qualité, c'est tout. Hein. Et puis après viendra peut-être le temps, parce que là je suis entièrement d'accord avec Pierre Morel, cette histoire de dialogue, il faudra jamais laisser tomber ça. Et à la période soviétique, il y avait des moyens de dialoguer comme on pouvait. Donc viendra le temps où... J'espère qu'on pourra trouver des moyens de dialoguer avec des Russes qui resteront là-bas. Mais je trouve que c'est important que vous ayez mentionné, parler de cette russophobie qui là aussi, on le sent, je suis d'accord avec vous. Mais là, il faut bien expliquer aux gens qu'il y a deux types. Je suis trop longue, François, mais c'est trop important. Il y a deux types de Russes. Hein. Il y a ceux qui ont les réseaux sociaux et ceux qui ne les ont pas, dans les parties éloignées de Russie, dans les villages, des générations qui n'ont pas les réseaux sociaux et qui n'entendent que la télévision, ceux-là, ils sont complètement effectivement sous la propagande russe, et de toute façon, pour eux, effectivement, il faut envahir l'Ukraine et il y a une légitimation de la guerre. Et puis, il y a ceux qui savent ce qui se passe. Et il y en a beaucoup, dans les générations les plus jeunes, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de cette guerre. Et je vous parlais de ces prêtres qui ont signé cette lettre. C'était un geste extrêmement, extrêmement courageux. Je ne sais pas où en sont là aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont encore leur paroisse. Je crois qu'il faut qu'on dise, je crois qu'il faut qu'on, voilà, qu'on explique ça aux gens. Mais vous avez raison, c'est essentiel.
Merci, nous avons terminé là-dessus. Peut-être juste, je permettais un petit complément, de ne pas confondre la culture russe avec cette excroissance aberrante qui est le messianisme. Russe. Voilà, oui. Ce que Cathy nous a largement décrit, je crois que la culture russe est autre chose que ça. N'assimilons pas la culture russe à cette dimension-là. Nous terminons là-dessus cette soirée. Il y aura encore beaucoup de questions et beaucoup de choses à dire. Mais bon, je pense que vous tiendrez informés. En tout cas, lisez ce que nous publions sur cette question-là. Nous nous retrouvons donc le mardi 5 avril. hein, c'est bien ça, pour la prochaine soirée d'éthique publique. Il y a à la sortie des boîtes à votre disposition, vous les connaissez sans doute, des boîtes transparentes qui accueilleront très volontiers votre généreuse obole. Bonne soirée et continuez à suivre l'actualité aussi pénible soit-elle.